Salut à tous, c'est Denis dans les Vosges. Eh ben écoute, le piment écrasé, la papaye, les feux de bois, les tortues, etc. Ben, ça fait du bien dans la grisaille ambiante. Ça change du charcofri, on pense aux requins quand on pense Sarko, n'est-ce pas? Et à tout ça. Eh ben merci encore, tenez le coup et au revoir à tous, ciao.
Bonjour monsieur Garrido, Paris. Voilà, je vous appelle pour vous dénoncer ce que j'ai vu hier soir à la télévision, à savoir ces pauvres gens d'Outreau qui ont parlé devant les caméras, qui ont expliqué leur cas. Et je n'ai franchement jamais vu quelque chose d'aussi horrible, d'aussi monstrueux. Et j'imagine que même pendant la guerre de 40 avec la Gestapo et les milices de Pétain, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là. C'était carrément odieux. Comment qu'aujourd'hui, en 2006, on peut avoir une justice et des gens qui ont un pouvoir tel et des gens que je soupçonne très gravement de n'être vraiment pas des gens évolués ni culturés suffisamment pour accuser d'entrer et persister dans l'accusation envers des personnes innocentes et d'avoir cassé et ruiné des foyers comme ça et de voir ce juge Borgo là sourire et pratiquement se moquer des jeunes qui parlaient et de ces personnes complètement brisées. Je trouve ça ignoble, je ne trouve même plus les mots ni les superlatifs pour décrire la chose. Je suis complètement révolté en tant que citoyen français. Et franchement, je rêve d'une chose, c'est que des associations organisent une manifestation silencieuse dans toutes les villes de France et qu'on fasse appel à toute la population qui ont vu ces images afin de manifester le plus rapidement dans les rues afin que l'on change cette justice de merde. Et le mot n'est pas assez lourd pour dénoncer ce déferlement de choses injustes.
Oui, bonjour Daniel. Bonjour à toute l'équipe, c'est Hervé à Brest. Je pensais aux dockers, là. Vous avez vu comment ils ont rappelé le nouveau règlement, là? Ce machin, cette décision qui privatisait les grutiers, etc., etc. À mon avis, les dockers nous ont montré le chemin, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment la casse qui a eu lieu à Bruxelles. La fermeture de Rotterdam, d'Anvers et d'Amsterdam, qui représente quand même le pôle principal au monde de trafic de marchandises par les voies maritimes, ça a dû coûter cher. Et quand on touche au porte-monnaie en général, c'est bon. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut.
Bonjour, c'est le repère de l'île de Croix, Locmaria. Le bateau-ivre, donc c'est aujourd'hui à 21h. Et pour ceux qui viennent, les nouveaux qui viennent, parce qu'il y a souvent les nouveaux qui viennent, ils demandent comment ça se passe. Bon, il n'y a pas de mot d'ordre. La soirée est à chaque fois ce que nous en ferons. Et quelqu'un a dit récemment après la fin d'un repère, peu importe si on est d'accord ou pas avec le point de vue, l'important, c'est la rencontre. Et ce qui est bien, c'est quand on part avec un plus. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Salut.
Cher là-bas, si je suis ton ami. C'est pour ça que je décida de créer un repère ici-bas. Donc, je t'interpelle. Je prends le téléphone et je t'appelle. Et ça fait déjà 10 fois. Malgré que je n'aime pas ça. Pour une fois, sois sage et passe le message. On essaiera de s'écouter chez Malik, le Sénégalais. On essaiera de changer le monde depuis Saint-Pantaleon. Voilà, c'est Katerina. Plus en clair, alors, à Saint-Pantaleon de l'Arche, qui se trouve entre Brive-la-Gaillarde et Terrasson, le mardi 24 janvier à 20h30, au bar du Crocodile Gourmand, rue de la Mairie. Voilà, j'espère d'avoir été assez clair. Au revoir et à bientôt. On vous est pas nombreux.
Mais c'est très clair, le Crocodile Gourmand, rue de la Mairie, à Saint-Pantaléon de l'Arche, à côté de Brive-la-Gaillarde, mais c'est tout à fait clair. Elle s'appelle Katrina, jeune femme qui vient de laisser ce message sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et voilà, alors Katrina, je l'ai appelée, elle est italienne. Tout ça va se passer dans un bar tenu par un Sénégalais à Saint-Pantaléon, c'est-à-dire dans la France profonde, quoi. C'est parfait, ça nous plaît tout à fait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et c'est un nouveau repère, donc, des amis de là-bas, si j'y suis, qui s'ouvre aujourd'hui. Et c'est formidable, on est content. Et puis, il y a toujours celui, évidemment, de Groix, le plus vieux, c'est le premier repère, hein, l'île de Groix. Bon, un autre repère aujourd'hui, des amis de là-bas, si j'y suis, c'est Bamako. Bamako, au Mali, où s'ouvre à la fois le 6e forum social mondial, hein, qui va se tenir à Caracas dans quelques jours. C'est Antoine Chao qui sera le sous-délégué zéro de là-bas, si j'y suis, à Caracas et au Venezuela. Mais là, aujourd'hui même, actuellement, s'ouvre à Bamako. Alors, le premier forum social en Afrique, au Mali, c'est là. Et ça va être le repère effectivement de tous les empêcheurs de mondialiser en rond. Et pour savoir un peu comment ça va se passer, on a joint au téléphone Aminata Traoré, que vous connaissez, qui est écrivaine, ex-ministre de la Culture du Mali et membre de l'organisation du Forum Social Mondial, et qui nous explique un peu comment les choses vont se passer, puisque actuellement c'est la marche. À l'issue de ces marches, voilà comment ça va se présenter.
Aujourd'hui, nous, donc, la marche se termine au stade Modibo Keïta par une cérémonie que nous avons appelée l'appel des tambours. Et pourquoi? Parce que nous voulons dire à travers ces instruments haut et fort que le drame de notre continent, c'est que nos voix restent inaudibles. Le mépris vient là. Les nantis et les puissants n'ont pas seulement le privilège de nous piller, ils organisent le discours sur l'Afrique, ils organisent l'oubli. Donc nous voulons nous faire entendre et nous passerons aujourd'hui par nos tambours.
Alors les thèmes, donc, ce sera l'immigration. On nous a dit qu'il y aurait des rescapés, entre guillemets, de Ceuta et Melilla qui seront là.
Absolument, ils sont pour la première fois, ce ne seront plus ni des experts, ni leurs alliés, les acteurs de la société civile qui parleront pour eux, mais ce sont eux qui vont prendre la parole. C'est des sans-lieux, des sans-voix qui ont cherché refuge ailleurs en croyant que la vie pouvait être meilleure au nord. Donc ils nous sont revenus brisés. Et moi je me suis dit que nous sommes interpellés par un travail de reconstruction de leur être humilié et brisé. Et cela passe par l'appropriation d'un espace qu'on nous a donné. Et quelque part au bout de ce village, ils ont créé Ceuta et Melilla. Donc c'est à eux de nous dire devant le grillage et après 3 semaines d'écriture, parce qu'ils ont écrit leur histoire, ils vont jouer leur histoire. Donc dans leur langue et surtout à travers le jeu théâtral, ils sont bouleversants et absolument extraordinaires. Donc cette prise de parole sera, à mon avis, l'un des temps forts du Forum Social Mondial dans le pays.
Aminata Traoré, l'un des thèmes qui a agité et qui continue d'agiter l'opinion en France, c'est cette loi de février sur le bilan positif de la colonisation. Est-ce que ça a des échos chez vous en Afrique?
Oui, mais absolument. Nous voyons l'Occident débattre à travers le petit écart, nous suivons. Mais la plupart du temps, on n'entend pas l'Afrique par rapport à ces questions qui la touchent dans ses tréfonds. Donc, nous, on a bien sûr un débat sur l'histoire, la mémoire et l'oubli. Qui est qui a fait quoi, et pourquoi, comment nous en sommes là. Et ce révisionnisme a également pour fonction de mieux masquer les méfaits de la globalisation. Parler du rôle positif de la colonisation émanant de ceux qui ont dominé, écrasé, pillé, procède de la même logique du camouflage des faits. Il est beaucoup plus facile d'accabler l'Afrique, de la montrer du doigt, pauvre, corrompue, victime d'elle-même, plutôt que de dire, voilà, nous sommes embarqués dans une histoire mondiale qui est une histoire de violence, les conséquences de les inégalités, l'injustice, et qui oblige des milliers d'habitants du Sud à abandonner leurs terres.
Aminata, vous avez aussi le thème de la dette, évidemment, que vous allez aborder, oui, donc, au forum.
Oui. Là aussi, entre deux éditions de Porto Alegre, c'est pour ça que les gens ont tort de croire que nous nous répétons, que tout est théorique. C'est faux. Parce que c'est cet espace qui nous permet aussi de dire haut et fort que les gens qui se sont réunis à Glen Eagles, à Negos, Costa, et toute cette comédie de Bob Geldof, Live Aid au nom de l'Afrique, quelle insulte à l'Afrique. Donc nous disons que cette annulation, cette décision unilatérale d'annuler la dette de 18 pays, dont 14 d'Afrique, en sélectionnant les plus soumis, c'est-à-dire en tout cas ceux qui ont mis en application et les instructions de Bretton Woods, et c'est ça encore, le système se nourrit de mensonges, consolide ses assises et nous fait perdre un temps fou, et en sachant parfaitement qu'il ne s'agit pas d'annulation de dette, parce que nous estimons qu'on ne doit plus rien à ces créanciers qui ont suffisamment pris, qui nous ont pris. Mais c'est une manière encore de donner davantage de pouvoir au FMI et à la Banque mondiale, puisqu'il s'agit de dire aux autres, prenez l'exemple sur ces 14 pays et nous annulons votre dette. Mais il ne s'agit pas d'annulation, il s'agit tout simplement, je ne sais pas, on se moque de nous.
Ok, Aminata, bravo.
Merci. Merci Daniel.
T'embrasse très fort.
Okay, salut, à bientôt. Ciao.
Voilà, Aminata Traoré, une grande voix de l'Afrique, et donc l'ouverture de ce forum social mondial à Bamako qui va durer pendant 5 jours, et ensuite aussitôt ce sera le forum social de Caracas, et dans 2 mois ce sera à Karachi. Ça a été retardé pour des raisons de climat, des tremblements de terre, etc. Vous êtes au courant. Donc Karachi, ce sera dans 3 mois, cette année, le forum social et polycentrique à plusieurs endroits en même temps. On va aujourd'hui retrouver quelqu'un qui a un lien, mais là vraiment direct avec ce qu'on vient d'entendre, ou plutôt c'est ce qu'on vient d'entendre qui a un lien direct avec lui. Lien direct ou indirect. On va retrouver quelqu'un que nous avons rencontré, vous aussi, auditeurs de la Basse-Suisse, il y a exactement 10 ans. Il y a 10 ans, Cornelius Castoriadis. J'avais eu avec lui un entretien autour d'un livre qu'il publiait à ce moment-là. Et cet entretien nous sert toujours depuis 10 ans de référence. Et à vous aussi, qui avez été très nombreux à vous intéresser à recopier cet entretien qui a été publié sous un petit ouvrage qui, je le sais, a eu beaucoup de succès. Et pourquoi? Parce que Cornelius Castoriadis, qui était un énorme, on a dit un géant de la pensée, énorme et hors norme, comme avait dit Edgar Morin, qui était donc un grand intello dans du tas de domaines différents, l'économie, la politique, l'histoire, la philosophie, la psychanalyse, puisqu'il était psychanalyste, ce jour-là a eu des paroles extrêmement, j'allais dire simples, je veux dire claires, et qui très, d'une manière très claire, vous allez voir, très simple, retrace l'origine presque de notre pensée occidentale, lui qui était grec et se référait toujours à ses ancêtres grecs, la pensée occidentale et les luttes, et ces luttes qui nous agitent, qui nous font courir, et qui nous font courir, on le voit à travers la voix d'Aminata Traoré, jusqu'en Afrique. C'était, l'ouvrage s'appelait La montée de l'insignifiance, et c'est donc cette rencontre que je vous propose de réécouter. C'était il y a 10 ans. C'est là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Feu Cornelius Castoriadis, La montée de l'insignifiance.
Flight number 2, arriving from New York.
Montée de l'insignifiance, il la voyait un peu partout, il la voyait en politique, surtout du côté des politiques réduits à appliquer la politique ultralibérale, mais aussi côté des citoyens oscillant entre l'apathie et le cynisme, et que le chômage et la précarité désengage de la vie de la cité. Le chômage, c'est la désinsertion. La précarité, c'est la soumission. Et dans ces conditions, il est difficile de prendre part, de faire partie de la communauté de destin que nous sommes, que nous devons être, que nous pouvons être, que nous sommes peut-être réduits à être. Et je le disais, Cornelius Castoriadis fut marxiste. Il a très tôt, dès les lendemains de la guerre, condamné le communisme stalinien. Il taxait de contre-révolutionnaire. Il s'était passionné pour ce qui se passait, à Budapest en 1956. Mais ensuite, il a aussi critiqué le trotskisme auquel il avait adhéré pendant un moment. Mais pour autant, je le disais, il n'a pas renoncé, il ne s'est pas renié, il n'a pas renié sa nature d'homme. D'homme révolté, il a toujours cherché jusqu'au bout une radicalité politique, radicalité qui reste bien sûr aujourd'hui à définir, qui est peut-être, allez savoir, en train de se redéfinir à l'heure où nous parlons et à l'heure où nous écoutons, nous entendons la voix de cet homme.
Le capitalisme n'est pas malade. Ou tout au moins, le capitalisme n'est pas tombé subitement malade. Il a simplement poussé jusqu'à son terme la logique dont il est porteur, à savoir tout transformer sur cette planète en objet de profit, tout transformer en marchandise.
Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement. Elle a perdu son sens, non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. Depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon. Manque de sens de cette distinction.
Pourquoi cette insignifiance ? Par quel mécanisme cette classe politique serait-elle réduite à une impuissance ? Puisque c'est le grand mot le plus employé en ce moment, c'est impuissance.
Ah non, c'est pas un grand mot, ils sont impuissants, ça c'est certain. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque, et même les socialistes, bon, ils n'ont pas fait autre chose, et je crois pas qu'ils feraient autre chose si j'étais au pouvoir. Ils disent que c'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas ? Bon, c'est des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen, c'est tout.
Le marketing politique.
Le marketing. Ils n'ont aucun programme, quoi. Mm-hmm. Ils n'ont pas vraiment des programmes. Leur but, c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour ça, ils sont capables de tout. Clinton, par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça. Si je dis si, qu'est-ce qui va se passer ? En prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique. C'est-à-dire, comme disait l'autre, je suis leur chef, donc je les suis, quoi. Bon. Mais ce qui est de fascinant dans l'époque, c'est comment ça conspire, comme dans toutes les époques, d'ailleurs. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas ? Dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps. C'est sans aucune conspiration d'une puissance quelconque qu'on pourrait désigner, tout conspire au sens, respire dans le même sens pour les mêmes résultats, c'est-à-dire la signifiance. Bon, la politique, c'est un métier bizarre, même cette politique-là. Ça a toujours été un métier bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. La première capacité, c'est d'accéder au pouvoir. Si on n'arrive pas à accéder au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne sert à rien. Ça implique un art de l'accession au pouvoir. La deuxième, c'est une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de gouverner. Bon, Napoléon savait gouverner. Clémenceau savait gouverner, Churchill savait gouverner. Bon, c'est pas des personnes que j'aime particulièrement, ni qui sont dans mes cordes politiquement. Je décris maintenant un type historique. Bon, or, rien ne garantit que quelqu'un qui sait gouverner sait accéder au pouvoir. Oui. Alors, dans la monarchie absolue, accéder au pouvoir, c'était quoi? C'était flatter le roi. C'était dans les bonnes grâces de Madame Pompidou. Pas Pompidou, Pompadour. C'est un joli lapsus.
On le gardera.
On le gardera. Bon, et Madame Pompidou, la pauvre d'ailleurs, elle ne mérite pas ça. Bon, et puis après, ce qui se passait quand on était au pouvoir, c'était autre chose. Dans la forme de pseudo-démocratie sous laquelle nous vivons, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion publique.
Vous dites pseudo-démocratie. On attaque la classe politique, d'accord. C'est une tradition. Là, vous la définissez donc comme insignifiante, comme suivant le cours de l'opinion. Mais il y a l'opinion, il y a les citoyens. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces citoyens?
Ben, les citoyens ne peuvent pas foutre grand-chose. Parce que je dis pseudo-démocratie d'abord parce que j'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu de les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes, ou des intérêts particuliers, ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, hein. Les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Or, même ça, c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance. Personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit, voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils ne seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Il vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens ne sont loin d'être idiots, le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins, et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui, ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois, les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon, mais autrefois, c'était pas mieux au sens... c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés à partir de la Révolution américaine et française, jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient. Ils manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF, ce qui, je ne dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève. Ils ne faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça a marqué ces deux siècles. Or, depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification. Ils disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Oui. Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, il n'y peut rien. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est tout à fait liée à celle-là, c'est la dissolution des grandes idéologies politiques. L'idéologie, soit révolutionnaire, soit vraiment réformiste, mais pas réformiste pour rire, qui voulait vraiment changer des choses dans la société, pour mille et une raisons qu'on ne peut pas discuter maintenant, a été déconsidéré, a cessé de correspondre au temps, etc., etc., à correspondre aux aspirations des gens, à la situation de la société, à correspondre à l'expérience historique. Bon, tout le monde nous dit, bon, c'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas ? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dire une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et a, comme on dit bêtement, tiré des leçons. Alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, du totalitarisme, le goulag, etc., etc. Bon. Et puis, dans l'effondrement, mériter une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce qu'un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord. Bon. Alors, donc, comment voulez-vous ? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le peuple, les masses, etc., etc., tire les conclusions qu'il peut tirer, mais il n'est pas vraiment éclairé. Vous me parliez tout à l'heure du rôle des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font, ces intellectuels ? Bon, alors, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant depuis Reagan, Thatcher et puis les socialistes français ? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du 19e siècle, qu'on avait combattu pendant 150 ans, qui aurait conduit la société à la catastrophe, parce que finalement le capitalisme, c'est vrai, le vieux Marx n'avait pas tort, est-ce qu'il avait tort sur un autre plan. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré 1000 fois, enfin 100 fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi il ne s'est pas effondré ? Parce que les travailleurs ont lutté. Ils ont imposé des augmentations de salaire. Donc ils ont créé des énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail. Ça a absorbé tout le chômage technologique. On s'étonne que maintenant il y a du chômage, mais depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, le temps de travail n'a pas diminué. Et on hésite, on dit 39 heures, 38 et demi, 37 trois quarts. Et c'est absolument grotesque. Bon, donc... il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je suis sûr que si ça continue comme ça, enfin je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer, moi je ne vois pas comment l'Europe en tout cas pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or les libéraux viennent et disent, il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. C'était pas des révolutionnaires. C'était pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, une distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été réfuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par les noms de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit, bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché, à la longue, vous garantit le bien-être. À la longue, il vous garantit le bien-être. En attendant, il y a 12,5% de chômage officiel en France.
Pourquoi pas l'opposition à ce libéralisme ?
Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée elle étudie quand même. C'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas? Pensée unique, libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était l'idéologie libérale à sa grande époque?
1850?
Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on voyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, Guizot ou John Stuart Mill, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois une élévation du bien-être économique.
Enrichissez-vous.
Hein?
Enrichissez-vous.
Enrichissez-vous. Mais même quand on ne s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abruti par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. Constant dit, les ouvriers ne peuvent pas voter. Parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc il faut un suffrage censitaire. Bon, alors après on a dit, bon non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces de lumières, qui ne sont plus les lumières subversives du 18e, mais enfin qui se diffusent comme ça dans la société, la science se développe, l'humanité s'humanise, les sociétés se civilisent, et comme ça, petit à petit, asymptotiquement, on arrivera à une société où il n'y aura pratiquement plus d'exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie, etc., etc.
Pas mal.
C'était pas mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que le reste s'est réalisé. Mais tout ça, ça n'a pas humanisé l'humanité, ça n'a pas civilisé la société, ça n'a pas adouci les capitalistes, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que c'est pas les hommes, c'est le système. Et donc, ça ne marche pas comme ça, et ça fait que, de l'intérieur, les gens ne croient plus à cette idée. L'idée est une, comment dire, l'humeur, la disposition générale est une disposition de résignation. Même chez les représentants du libéralisme, puis j'ose pas dire plus. Quel est le grand argument maintenant? C'est peut-être mauvais, mais l'autre terme de l'alternative était de loin pire. C'est ça le grand argument.
Oui, ça se résume à ça.
C'est... Hein?
Oui, c'est ça.
Ouais. Ça se résume à ça. Et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Ça... C'est vrai que ça a glacé pas mal les gens. Ils disent, bon, mais si on bouge trop, on va pas arriver à nouveau au goulag, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est derrière cette espèce d'épuisement idéologique de l'époque. Et je crois qu'on en sortira que si vraiment il y a... Enfin, c'est une tautologie de dire ça comme ça, mais enfin, il faut qu'il y ait, il faut attendre, il faut espérer, il faut travailler pour qu'il y ait une ressurgence à la fois d'une critique puissante du système et d'une activité des gens, une participation des gens.
Une nouvelle étape dans l'évolution de l'analyse des paramètres qui lâche l'affaire, qui part, qui reste. Certains ont plusieurs vestes, d'autres sont contagieux comme la peste. Et tous veulent du changement. Mais quel changement? Changer le gouvernement, changer de rapport avec les gens, changer les enfants, changer en plus conscient, changer le monde, changer le présent. Ça, c'est sûr, le futur en les pend. Mais quelle solution pour lutter contre la décomposition sociale qui s'installe et pénètre?
Élite politique réduite à servir de larbin à la World Company, un télo chien de garde vaniteux et raplati, médias qui ont trahi leur rôle de contre-pouvoir, voilà quelques causes et quelques symptômes de ce que Cornelius Castoriadis appelait la montée de l'insignifiance. Cornelius Castoriadis qui nous a accordé cet entretien en novembre 1996. Alors, montée de l'insignifiance des élites et des repus, mais qu'en est-il de nous, c'est-à-dire les citoyens, au moment où l'on sent frémir comme un certain regain d'activité civique, que ça et là, on commence quand même à piger que la crise n'est pas une fatalité de la modernité à laquelle il faudrait se soumettre, s'adapter sous peine d'archaïsme. Alors, se pose le problème du rôle de chacun de ces citoyens que nous sommes et de la compétence de chacun de ces citoyens que nous sommes pour exercer nos droits et nos devoirs démocratiques dans le but douce et belle utopie de sortir du conformisme généralisé. Cornelius Castoriadis.
Ah, la, 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 la. Forum sociale.
Social forum.
Non necesitamos pedir permiso para ser libre.
Votre confrère et compère Edgar Morin, en matière de politique, dit une chose que vous connaissez, qui est l'histoire du généraliste et du spécialiste. C'est-à-dire qu'il dit, la contradiction de la politique, c'est qu'il faudrait à la fois... la politique, c'est un domaine où il faut être généraliste, hein, et donc c'est une impasse, parce qu'un généraliste, c'est un petit peu tout sur mais pas à fond, évidemment, par définition. Et puis c'est une affaire aussi de spécialiste, mais c'est une impasse aussi, parce que le spécialiste, il connaît sa spécialité, mais pas le reste. Spécialiste et généraliste, comment vous faites pour faire de tout, avec cette contradiction, un bon citoyen?
Ce dilemme posé comme ça est posé depuis Platon.
Oui.
C'est pour ça que Platon disait, c'est les philosophes qui doivent régner, qui sont au-dessus des spécialistes, parce qu'eux, ils ont, dans la théorie de Platon, ils ont une vue du tout. Mais l'autre terme de l'alternative, c'était précisément la démocratie athénienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Athéniens? C'est très intéressant. C'est les Grecs qui ont inventé les élections, hein. Ça, c'est en fait historiquement attesté. Bon, ils ont peut-être eu tort, mais ils ont inventé les élections. Bon. Alors, qui est-ce qu'on élisait à Athènes? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde, bon, Aristote. Citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialiste. Il n'y a pas... Et pourquoi c'est pas une affaire de spécialiste? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialiste de la politique... et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide, et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des palaises. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples... la conduite de la guerre. Il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Et sur quoi on se base pour élire le meilleur?
Alors, sur quoi on se base?
Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là?
Voilà. Alors là, mais bien là, bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on ne le réélit pas. Ou même on le réévoque. Vous voyez? Bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment cette doxa soit cultivée. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement? En gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. Bon, il y a eu récemment, j'ai entendu ça sur Europe 1, un de ces magazines qui publiait une statistique comme quoi 60% des députés, à vous qui ne comprennent rien à l'économie, les députés en France. Et ceux-là, ils vont décider, ils votent. Voilà, ils vont décider, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est que le cas avec ces députés, comme avec les ministres, etc., ça, c'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus, ils ont, c'est très drôle. Parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences. Alors, si vous suivez de près le fonctionnement d'un gouvernement, d'une grande bureaucratie, moi je l'ai suivi dans d'autres circonstances, vous voyez que quand vous dirigez, bien sûr, vous fiez aux experts, et vous choisissez les experts qui ont les opinions que vous préférez. Donc, vous trouverez toujours un économiste pour vous dire, oui, il faut faire ça. Ou un expert militaire qui vous dit, oui, il faut l'armement nucléaire, ou il ne faut pas d'armement nucléaire, ou n'importe quoi, vous voyez. Bon, c'est un jeu complètement stupide, et c'est comme ça qu'on est gouverné actuellement, plus ou moins. Donc, dilemme de Morin et de Platon. Les spécialistes des généralistes. Les spécialistes au service des gens. C'est ça la question. Pas de quelques politiciens, et les gens apprenant à gouverner en gouvernant.
Éducationnel, vous avez dit, et vous dites que c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel mode d'éducation vous voyez? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez?
Non, moi je
pense... Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise, de toute façon.
Comment?
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise.
Non, je ne préconise pas, mais ce que je pense, c'est que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, donc ça c'est le point capital. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués, et soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça, l'éducation. On leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'alphabète. Il n'y avait aucun alphabète. Tous, à peu près tous, savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction. Vous ne connaissiez pas la loi. On vous dit, vous êtes censé ne pas l'ignorer. Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. C'est-à-dire, il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'amèrent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc.
Vous avez écrit et beaucoup parlé de mai 68. Hein.
Oui.
Je reviens à Morin.
Oui.
Vous avez
oui.
appelé ça ensemble la brèche. C'est le mot que vous aviez trouvé, c'est ça?
Oui, oui. Oui.
Une brèche. Si on repense à 68 parfois, il y a eu des tas de gens qui ont adopté des comportements révolutionnaires, romantiques, absolus, doctrinaires à l'époque, qui étaient basés sur une ignorance complète.
Oui.
Bon. Quand aujourd'hui, on me dit « Ah, oh, t'as du bol, t'as vécu 68 », je dis « Les gars, attendez, le niveau culturel, le niveau de connaissance était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison ?»
Oui, vous avez raison à un certain... d'un certain point de vue, qui est très important, vous avez raison, parce que... Mais c'est pas tellement une question de niveau de connaissance, je crois. C'est l'énorme domination de l'idéologie, dans le sens strict, j'allais dire, dans le sens mauvais du terme. Les maoïstes, c'est parce qu'ils savaient pas. On les avait endoctrinés, ou ils s'endoctrinaient eux-mêmes. Pourquoi ils acceptaient les doctrinations? Pourquoi ils s'endoctrinaient eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'être endoctrinés. Ils avaient besoin de croire. Et ça, ça a été la grande plaie du mouvement révolutionnaire depuis le départ.
Mais l'homme est un animal religieux.
L'homme est un animal religieux. Aristote.
C'est pas un compliment, mais.
Non, c'est pas du tout un compliment. Aristote, que je n'arrête pas de citer et que je vénère dans le roman, il a dit une seule fois une chose qui est vraiment une grosse. Bon, faut pas dire bourde quand il s'agit d'Aristote, enfin, ça va pas. On dit l'homme est un animal qui désire le savoir. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance. Il désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Alors, le mouvement ouvrier au départ, par exemple, il y avait une attitude très critique. Quand vous prenez les deux premiers vers de l'Internationale, qui est quand même le chant de la Commune, hein, c'est le deuxième couplet. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, d'accord, excite la religion, ni César, excite Napoléon III, ni Tribun, excite Lénine. D'accord?
Ah, j'avais jamais pensé à ça.
Eh oui, mais les gens y pensaient. Or, les gens avaient ce besoin de croyance Voilà. Alors, en quoi sommes-nous plus sages que mai 68? Je crois que peut-être le résultat à la fois des suites de mai et de l'évolution dans les pays de l'Est et de l'évolution générale de la société, c'est que les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques.
Ah,
ça c'est très important. Alors il y a une frange qui cherche toujours la foi, et là vous avez la scientologie, vous avez les sectes, vous avez tout ce que vous voulez, ou le fondamentalisme, mais ça c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, pas chez nous, pas tellement quand même. Bon, mais les gens sont devenus beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques, ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que, c'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens, il dit « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. »
Les seuls ?
Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable.
Ah, oui.
Il dit « Les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire, parce qu'ils se disent il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. » Bon. Or, précisément, actuellement, on a en traverse aussi une phrase d'inhibition, ça c'est sûr. Les gens, bon, un chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, effectivement, il n'y a plus de grands discours, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais. Et c'est ça qui n'existe pas, de moi, n'existe pas dans une projection sociale, si je peux dire.
C'est un pays extraordinaire ici, j'adore.
Vous êtes psychanalyste aussi,
hein, oui.
Ce qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne.
Okay.
Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce
délirons.
Nous qui désirons.
Ah, qui désirons sans fin, oui. Nous qui délirons sans fin, oui.
Nous qui désirons sans fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon, il y a un irréductible désir. Enfin, et encore. Là, vraiment, je ne sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, c'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On ne parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray, dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé, qui était de la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qui décrit, quelqu'un qui avait épousé une duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. Peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer dans cette voie. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en un sens une grande conquête. Pas question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un de mes très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter, individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme j'ai dit, devra savoir s'auto-limiter.
Interdire ?
C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il ne faut même pas essayer de faire, ou qu'il ne faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur cette planète merveilleuse que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète. Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire? Eh bien, je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça, ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens. Libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez ? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation, de la camelote, etc., etc., d'une télé dans chaque chambre, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre, et tout, dans cette pièce, chaque pièce de la maison. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne, effectivement.
Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté.
Oui.
Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça, c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté.
Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Et il est très facile d'être...
Démocratie difficile.
Démocratie difficile, c'est, parce c'est... que liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, c'est, l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Et une phrase merveilleuse de Thucydide, je ne sais plus dans quel discours.
Sacrés ancêtres, hein.
Sacrés ancêtres. Il faut choisir se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Ouais, vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité, c'est pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que elle peut tout faire, mais elle doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire.
Oui. Liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites.
Non, la liberté, c'est l'activité. Et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée. Et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.
Voilà, ainsi parlait Cornelius Castoriadis. C'était il y a 10 ans dans La Basse. J'y suis, je rappelle, le petit ouvrage qui a été publié à la suite de cet entretien post-scriptum sur l'insignifiance aux éditions de l'Aube. On se retrouve demain à 17h pour La Basse si j'y suis. Il n'y a pas de réclame aujourd'hui et vous vous retrouvez pour les informations avec Bruno Duvic. Salut.